Vous écoutez, on lit pour vous.
Le deuil qui nous apprend à vivre. Un texte d'Hélène David, paru dans La Presse. En 2024, j'ai écrit sur deux personnes intensément engagées pour le bien de leur société, Guy Rocher, sociologue qui fêtait alors son 100e anniversaire de naissance, et Valérie Fortier, présidente des Agricultrices du Québec. Le 3 septembre 2025, à moins de 3 heures d'intervalle, j'ai appris leurs morts respectives. Guy Rocher venait d'avoir 101 ans. Valérie Fortier, quant à elle, a disparu dans un tragique accident d'avion. Âgée de 42 ans, elle avait la responsabilité de ses 3 enfants depuis la mort de son mari en 2013. Elle exploitait une ferme laitière avec son père, en plus d'être, depuis 2 ans, présidente des Agricultrices du Québec. Le destin nous prend de court. Apprendre, la même journée, presque dans la même heure, la mort de 2 personnes qu'on a connues, nous rappelle que la vie est fragile et imprévisible. L'une est morte à un âge qu'on peut qualifier de respectable. L'autre a été victime d'un cruel destin. On le sait tous, la vie ne peut tenir qu'à un fil. Mais quand cette réalité nous rattrape, on est quand même secoué. Valérie Fortier était toujours prête à s'engager dans des causes, comme celle de la santé mentale, du travail invisible des agricultrices, des besoins de halte-garderie à horaires atypiques, ou encore les enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion dans le milieu agricole. Elle avait endossé tous ses rôles avec fougue et passion. Elle voulait changer le visage de l'agriculture au féminin au Québec. On se demande, sans trouver de réponse, pourquoi le sort s'est acharné sur ses 3 enfants qui perdent, à 12 ans d'intervalle, leur père puis leur mère, morts tous deux dans de tragiques circonstances. C'est tellement douloureux et radical. La vie est faite de questions, beaucoup plus que de réponses. Finalement, on ne choisit que peu de choses. Ni où l'on est, ni la famille qui nous accueille, ni les drames et pertes de nos vies. Notre enfance, notre milieu familial et nos expériences dessinent les contours de ce que nous deviendrons, des plus optimistes, fonceurs et déterminés, aux plus pessimistes, vulnérables et inquiets. Notre bagage génétique nous révélera aussi quelques-unes de nos forces et de nos fragilités. Notre environnement définira en grande partie la pauvreté ou la richesse de notre parcours. Le climat politique influencera les contours de notre vie sociale, financière ou familiale. Personne n'a décidé de naître à Gaza, au Soudan, en Ukraine, ou, au contraire, dans l'environnement feutré de pays riches et pacifiques. Beaucoup de choses nous échappent. Mais on peut choisir de poursuivre notre chemin de vivant avec les moyens qui nous sont accessibles, financiers, intellectuels, humains et sociaux. En vieillissant, nous comprenons de mieux en mieux l'importance de la solidarité, de l'entraide, de la chaleur humaine. Parce que la vie est trop souvent difficile, exigeante. Il faut puiser dans nos réserves d'optimisme et de sérénité. Guy Rocher disait que le plus important pour vivre et bien vieillir était de garder la curiosité. Valérie Fortier aurait probablement dit la même chose, elle qui n'aura pas eu le temps de réaliser tous ses projets. Le destin inclut une composante aléatoire qui, par définition, échappe à notre contrôle. Nous voulons tout prévoir, que la science nous accompagne dans toutes nos inquiétudes, nous donne des réponses et des solutions à toutes nos questions et problèmes, qu'ils soient environnementaux, médicaux, technologiques, sociaux ou géopolitiques. Mais il faut plutôt trouver nos propres réponses avec les ingrédients qui nous ont façonnés. Guy Rocher et Valérie Fortier avaient trouvé dans leur engagement des outils pour améliorer la société à laquelle ils appartenaient. Ils ont tout donné, le premier jusqu'à 101 ans et la seconde jusqu'à 42 ans. Ces deux deuils simultanés m'ont rappelé l'humilité et la modestie de notre condition de mortel. Pour surmonter la perte et la tristesse, il faut peut-être décider d'en faire quelque chose de plus grand que nous, nous mettre au service de ceux et celles qui restent, que nous pouvons aider. C'est une des seules avenues possibles pour permettre aux humains de survivre et éventuellement de vivre. Les conditions politiques et sociales actuelles de polarisation devraient raviver une flamme de concorde plutôt que de discorde, de rapprochement et d'empathie envers les plus vulnérables. On devrait vouloir être utile et aidant plutôt que clivant et provoquant. La vie continue, avec ou sans nous, et chaque perte, dans le meilleur des cas, ajoute une couche d'humanité essentielle au vivre ensemble. Vivre un deuil, c'est accepter tout ce que l'on veut habituellement éviter de voir et de comprendre. On sait que la vie est fragile, que tout peut s'arrêter brutalement. Je reprends la citation de l'auteur Cédric Sapin Defour, dont la conjointe a été gravement blessée dans un accident de parapente. Ce sont des moments où la vie peut basculer du tout au tout. A-t-on encore envie d'aimer la vie? C'est ce que je souhaite profondément aux endeuillés qui ont peine à trouver un sens au-delà de la perte. C'était Le deuil qui nous apprend à vivre. Un texte d'Hélène David paru dans La Presse.
Aux États-Unis, le côté absurde de la force. Un texte de Fabien Deglise paru dans Le Devoir. Des licornes, des grenouilles, des girafes, des poules, un homard et des hot-dogs géants. Depuis plusieurs semaines, les costumes les plus absurdes se multiplient dans les manifestations organisées aux États-Unis contre le régime brutal de Donald Trump. Samedi le 18 octobre 2025, des centaines de ces personnages se sont ainsi exposés à travers le pays lors d'une mobilisation populaire dénonçant la montée de l'autoritarisme chez le voisin du Sud. Près de 7 millions de citoyens ont participé à ce mouvement, baptisé « No Kings », pas de roi. Et ces accoutrements, apparus quelques semaines plus tôt dans les groupes dénonçant la répression d'agents de l'immigration dans plusieurs villes démocrates, laissent désormais des images persistantes et surtout tranchantes avec celles que cherchent à imposer les républicains pour dépeindre leurs opposants. La semaine précédente, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait mis en garde la population contre la déferlante de haine censée, selon lui, s'emparer des villes du pays, en évoquant la présence de marxistes, de militants d'Antifa, taxés de terrorisme par décret présidentiel et de l'aile pro-Hamas du Parti démocrate dans les manifestations du mouvement No Kings. Donald Trump, lui, justifie l'envoi de la garde nationale à Portland, à Chicago et à Washington en parlant de villes à feu et à sang sous l'effet d'une violence facilitée par les pouvoirs politiques démocrates locaux. Fin août 2025, Stephen Miller, conseiller du président et architecte de la radicalisation du pouvoir américain, a affirmé que le Parti démocrate se consacrait exclusivement à la défense des criminels endurcis, des membres de gangs, des tueurs et terroristes étrangers illégaux. Le Parti démocrate n'est pas un parti politique, c'est une organisation extrémiste nationale, a-t-il ajouté sur les ondes du réseau Fox News. Je m'attends à ce que ces costumes ludiques gagnent encore en plus en popularité, commente en entrevue Jonathan Michael Square, historien de la mode et spécialiste des mouvements sociaux à la New School de New York. Leur pouvoir symbolique et narratif est très fort, car ils viennent perturber le scénario d'une foule violente face à un État tout-puissant, et ils désamorcent les tensions en transformant une manifestation en jeu. Cet environnement vient alors déjouer la tentative du gouvernement de stimuler le chaos sur le terrain politique de l'opposition pour y justifier son déploiement de la force et l'instauration d'un régime de censure et de répression. Tuer le ridicule. Quand vous êtes ridicule en affirmant que nous sommes dangereux, nous allons rendre cela ridicule pour montrer à quel point vous êtes dangereux, a lancé récemment au républicain Brooks Brown, un activiste de l'État de Washington, pour expliquer cette irruption de personnages loufoques dans les foules. C'était sur les ondes de NBC. L'homme a lancé au début du mois une opération visant à distribuer des dizaines de costumes gonflables en forme de dinosaures, de coqs ou de grenouilles aux manifestants qui dénonçaient l'incarcération d'immigrants à Portland. L'absurde est le but poursuivi, a résumé le stratège démocrate Mike Nellis dans les pages du Washington Post. Tous ces militants du mouvement MAGA, Make America Great Again, se plaignent que ces villes sont sans loi, qu'elles sont dangereuses. Et c'est comme si vous confirmiez, par le ridicule, toute l'absurdité de ces affirmations. Le déploiement du ridicule dans un costume ou sur une pancarte pour dénoncer celui d'une politique, d'un acte gouvernemental ou d'un politicien ne date pas d'hier. En 2008, durant la primaire républicaine, le candidat Mitt Romney était régulièrement pourchassé dans ses apparitions publiques par un militant déguisé en Flipper le Dauphin qui voulait ainsi souligner les changements de position du politicien, surnommé alors Flip Romney, sur la question de l'avortement. Mais avec la prolifération des costumes gonflables absurdes depuis quelques jours, le phénomène passe désormais à une autre échelle, explique au Devoir Eilish Elzy, chercheuse au Center for Global Change and Media de l'Université du Texas à Austin. Selon elle, il attaque au passage Donald Trump là où cela fait le plus mal, la fragilité de son égo. Il n'aime pas être ridiculisé. Cela le blesse et montre qu'il n'a pas les nerfs assez solides pour occuper la fonction de président, ce que nous savions déjà, n'est-ce pas? Les manifestations étaient très limitées, inefficaces et les gens étaient démoralisés, a déclaré dimanche Donald Trump pour minimiser le dernier mouvement populaire organisé contre lui et ses politiques. Quand on regarde ces gens, on se rend compte qu'ils ne sont pas représentatifs de la population de notre pays. C'est impressionnant de voir comment ces manifestants trouvent constamment le moyen de se ridiculiser, a ajouté la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, Abigail Jackson. La mascotte gonflable Trump Baby a été conçue par des militants britanniques en 2018. On la voit fréquemment lors de manifestations dénonçant le président américain, comme celle du 18 octobre 2025 à Los Angeles, dans le cadre de la journée No Kings. Haro sur l'hypocrisie. L'humour est un instrument critique sérieux qui permet de désavouer les affirmations et les promesses des politiciens, la mise en scène des événements politiques ou l'hypocrisie et l'inefficacité des politiques, écrivait en 2022 un groupe d'universitaires allemands dirigé par Christian Penzold, professeur de communication à l'Université de Leipzig, dans un article publié dans les pages de l'International Journal of Communication. La valeur de l'absurde réside ainsi dans sa capacité à révéler l'idiotie implicite d'une politique par des moyens comiques, et c'est généralement le sérieux de sa cible qui rend un tel commentaire nécessaire et important. Un sérieux qui n'échappe pas aux manifestants qui opposent désormais leur mascotte gonflable à la volonté de Donald Trump de s'arroger des droits importants pour mater l'opposition dans son pays, au mépris même de la liberté d'expression et de l'état de droit. Au début d'octobre 2025, le populiste a indiqué qu'il pourrait en effet invoquer la loi sur l'insurrection, l'Insurrection Act, pour sortir le pays de ce qu'il qualifie de chaos et de violence. Une intention réitérée récemment pour donner aux Américains des villes sans criminalité, a-t-il dit. Je pourrais donc utiliser, si je le voulais, l'Insurrection Act et toutes ces absurdités disparaîtraient. C'est le pouvoir le plus fort dont dispose un président et vous en avez le droit absolu, a déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. L'Insurrection Act regroupe un ensemble de lois adoptées entre 1792 et 1871 qui autorise le président à mobiliser une milice armée ou des troupes fédérales sur le territoire américain pour permettre l'application de lois fédérales rendues impossibles par une rébellion ou une insurrection. Et face à l'exagération de la mesure évoquée par Trump, l'humour, par sa simplicité trompeuse, a certainement le potentiel qu'il faut pour mettre en relief ses accents autoritaires et antidémocratiques, estime Heilish Helsey. L'absurde ne peut pas tout résoudre. Il peut être aussi risqué, aussi, puisque l'on voit des personnes perdre leur emploi, être détenues ou expulsées pour avoir utilisé l'humour et dénoncé la montée du fascisme. Mais le pire, dans une situation pareille, serait de ne rien faire, dit-elle. Une mobilisation soutenue, des revendications claires, un travail politique sérieux, un plaidoyer juridique et, surtout, la création de coalitions doivent accompagner ce déploiement d'absurdes, sans quoi cet humour risque de se banaliser, ajoute Jonathan Michael Square, et perdre par le fait même son étonnante force de contestation. C'était, aux États-Unis, le côté absurde de la force, un texte de Fabien Deglise paru dans Le Devoir.
Aider les arbres à migrer, un texte de Marianne Dubé, paru dans Le Devoir. Une menace contre la forêt prend racine malgré nos efforts. Le réchauffement climatique. Pour la préparer aux bouleversements que cela entraîne, comme les feux et les envahisseurs, des chercheurs québécois testent des solutions. À 2 heures au nord de Québec, dans la réserve faunique de Portneuf, près du lac des Amanites, des arbres locaux partagent la forêt avec des cousins d'ordinaire plus frileux. Les épinettes blanches, qui ont leurs habitudes dans la région, côtoient désormais les carriers ovales, que l'on retrouve en temps normal plus au sud, le long du fleuve Saint-Laurent, et des cerisiers tardifs, présents dans les Maritimes. Ces nouveaux venus ne sont pas arrivés ici tout seuls. Ils ont été plantés par des chercheurs qui tentent de voir à quoi ressemblera la forêt du futur. Avec les changements climatiques, les arbres seront forcés de migrer plus au nord, où le climat leur est plus favorable. Le hic, le climat change à une telle vitesse qu'ils sont incapables de suivre. C'est pourquoi l'ingénieure forestière, Patricia Raymond, et son équipe du ministère québécois des forêts, de la faune et des parcs ont aussi choisi des essences du Sud pour cette opération de reboisement de 10 000 arbres. En devançant de 2 ou 3 décennies leur migration naturelle, elles espèrent que la forêt s'adaptera plus vite. Cette pratique nommée « migration assistée » n'est qu'une des nombreuses façons de préparer la forêt à la menace qui prend racine malgré nos efforts, le réchauffement climatique. Des chercheurs québécois testent des solutions pour contrer les dangers qui viennent avec un climat changeant. tels des feux de forêt plus intenses, et la prolifération d'envahisseurs, comme la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Ces bouleversements risquent d'affecter la biodiversité de la faune et de la flore et de perturber le rôle de puits de carbone de la forêt, qui aide à la lutte au changement climatique. Sans oublier les conséquences sur le secteur forestier, qui représenta en 2023 11 % de toutes les activités manufacturières du Québec et 1,7 % du PIB de la province. Les arbres de 2050. C'est pour conserver les services rendus par la forêt que des chercheurs se sont lancés dans la composition d'écosystèmes prêts au changement, avec des arbres adaptés aux conditions climatiques du futur. L'augmentation des températures anticipées, sans nécessairement une augmentation des précipitations, va causer des stress chez les arbres, note Patricia Raymond. C'est pourquoi elle a décidé de donner un coup de pouce aux arbres avec le projet de migration assistée, DREAM, Desired Regeneration Through Assisted Migration, dont elle est l'instigatrice au Québec et la chercheuse principale. Elle et son équipe sont parties à la recherche d'analogues climatiques, soit des endroits au sud où le climat ressemble à celui des prévisions de 2050 et de 2100 de la région de plantation. 9 essences d'arbres ont été plantées en 2018 dans la réserve faunique de Portneuf. Les semences du climat actuel proviennent de la région de Québec. Celles qui sont comparables aux conditions prévues en 2050 viennent de l'Estrie et celles pour le climat de 2100 du Wisconsin et des Maritimes. Sur une échelle de milliers d'années, les arbres arriveraient à rattraper leurs zones climatiques modifiées par les changements climatiques. Mais les études scientifiques montrent que la vitesse de migration naturelle des espèces d'arbres est vraiment plus lente que la migration des conditions favorables. Donc, si on laissait aller, si on n'intervenait pas, les espèces n'arriveraient pas à suivre, explique Mme Raymond. 5 ans après, 84 % des plants mis en terre ont survécu. Et la survie est similaire d'une provenance à l'autre. Cela semble tenir la route, donc ça pourrait être une approche à développer. Favoriser la migration ou pas? Pour Alain Paquette, professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la forêt urbaine, la migration assistée n'est pas nécessairement une bonne idée. Pour lui, il s'agit d'un aveu d'échec. C'est comme si on disait « on n'arrivera pas à contrer les changements climatiques ». Il évoque les risques liés à la migration assistée. Si les températures sont en hausse, cela n'exclut pas qu'il y a encore des températures nettement sous le point de congélation. Et avec des espèces du Sud, ça peut poser un risque puisqu'on les plante dans un climat qui n'est pas encore propice pour elles. M. Paquette croit que les efforts devraient être mis dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements. La meilleure façon d'aider la forêt à s'adapter, c'est de lui offrir la plus grande diversité possible d'options. C'est en assurant une régénération naturelle, avec tout le potentiel de diversité génétique qui vient avec et que la plantation n'offre pas. Il mise plutôt sur la conservation des forêts. En enlevant toute activité de l'industrie forestière des vieilles forêts vierges, on conserverait sa diversité et sa résilience. Quant à l'industrie, M. Paquette croit à la culture intensive, près des usines, sur un petit territoire. Par la plantation, moi je pense qu'on est mieux d'intervenir le moins possible. Mais j'ai des collègues qui pensent l'inverse. C'était « Aider les arbres à migrer », un texte de Marianne Dubé, paru dans Le Devoir.
Une déclaration historique pour les droits des femmes inuites. Un texte de Nelly Guidici, publié dans l'Aurore boréale. Du 27 au 29 octobre dernier, le tout premier sommet des femmes inuites a eu lieu à Sisimiut, au Groenland. Organisé par le Conseil circumpolaire inuit, il a permis de réunir 42 femmes du Canada, de l'Alaska et du Groenland. 4 participantes du Chukotka, Chukotka, en Russie, ont également pu se joindre à certaines sessions virtuelles durant le sommet. Ces 3 jours de rencontres et de réseautage ont permis aux participantes de partager leurs connaissances, mais aussi de renforcer leurs liens. Ce sommet se concrétise à un moment crucial, d'après Sarah Olzig, présidente du Conseil. Citation : « Nous avons beaucoup à partager et à apprendre les unes des autres. les droits individuels et collectifs des femmes et des filles inuites sont gravement affectés par de nombreuses politiques, programmes et événements actuels et historiques. Nous devons nous unir pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles inuites, a déclaré Sarah Hultvig, fin de citation. Une déclaration inédite. De plus, le sommet, qui a été riche de moments précieux et stimulants, selon la présidente, s'est clôturé par la publication de la Déclaration des femmes inuites. Présentée comme un plaidoyer fort pour renforcer la voix, la sagesse et la place des femmes inuites en Arctique, la Déclaration est aussi un document historique. Il marque un tournant dans l'histoire et reflète les priorités et les aspirations collectives des femmes et des filles inuites. Cette déclaration de 12 pages présente des recommandations concrètes pour faire progresser la protection, la promotion et la mise en œuvre des droits des femmes inuites au niveau national, régional et international. Le document affirme que les femmes inuites, comme les femmes autochtones, subissent des violences et de la discrimination fondées sur le genre et leurs identités. Les conséquences de, citation, ces violations touchent non seulement les femmes, les filles ou les personnes de genre divers, mais aussi l'ensemble de nos peuples à travers les territoires inuits et au-delà. Fin de citation, peut-on lire dans la déclaration. En outre, ces formes de violence ne sont pas accidentelles et résultent, citation, de politique coloniale, d'idéologie de supériorité raciale et de l'exclusion systémique. Même si ces idéologies ont été largement dénoncées, leur héritage persiste dans les structures juridiques de gouvernance, mais aussi dans les services publics. Fin de citation. Les 42 recommandations destinées au gouvernement du Canada, des États-Unis, du Danemark et de la Russie vise à lutter contre la violence latérale, tout en reconnaissant le rôle essentiel des femmes inuites dans la défense de leur culture et de leur communauté. Publiée en anglais, cette déclaration est en cours de traduction en Inuktitut. Article de l'Arctique est une collaboration de 5 médias francophones des 3 territoires canadiens, les journaux L'Aquilon, l'Aurore boréale et le Nunavoie, ainsi que les radios CFRT et Radio Taïga. C'était une déclaration historique pour les droits des femmes inuites, un texte de Nelly Guidici, publié dans l'Aurore boréale.